Sales.
Bonjour à tous et bienvenue dans Nip Sales épisode 008. Et oui, déjà 8. 8 fois 2, 16. Ça fait donc 16 semaines que nous faisons Nip Sales. On continue. Pour ceux qui nous joignent pour la première fois, car ils ne savent pas ce que c'est Nip Sales. Alors, Nip Sales, c'est un podcast qui parle de vente, de retail et de communication. Notre but, c'est de parler de ce qu'on adore, ce qu'on fait, c'est-à-dire de la vente de manière détendue, puis aussi de vous apporter de la valeur. Alors, bien sûr, moi, je m'appelle Michael, aka Side, S-Y-D-E sur Twitter, mais je ne suis pas tout seul, bien sûr, pour vous parler de vente. Il y a mon bon compadre Marco qui se joint à moi. Bonjour Marco.
Salut Michael, salut à tous et bon dimanche.
Oui, très bon dimanche. Alors, pour ceux qui ne nous joignent pas en live, parce qu'il fait tellement beau ce dimanche, on est dimanche le 13 vers 17h30 comme ça, et puis le soleil brille, en tout cas en Suisse, sur les Alpes. J'ai une magnifique vue depuis ma jolie chambre, mais je suis quand même très content d'être là à Nip Sales. Et toi Marco, ceux qui voient la vidéo, ils voient que tu as l'air d'être un peu dans une espèce de bureau sous-sol. Est-ce que ça va?
Écoute, c'est exactement ça. Hein. Je suis dans les bureaux d'Orecas, donc la start-up que j'ai lancée il y a quelques mois. Des soucis de connexion, hein. C'est une sorte de malédiction qui me poursuit à chaque fois que je dois faire un Nip Sales. Mais on est là. J'ai simplement oublié le soleil pour aujourd'hui.
Parfait, parfait. Ben voilà, on va commencer comme à chaque fois par une petite minute ou une petite 5 minutes, on va appeler ça comme ça, perso et communautaire. On est dans la vente, on est à Nip Sales, donc on parle de chiffres, Marco. Allez, alors explique-nous qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux dernières semaines en termes de chiffres pour Nip Sales.
Alors, je te lis la petite review chiffrée. Cette fois, elle est positive. Donc, ça fait grand plaisir d'annoncer que la septième émission a vu plus de downloads que la sixième. Donc, on est à 784 versus 719. On avait tout à l'heure ce petit débat sur comment communiquer la progression, hein, sachant qu'il y a deux grandes écoles entre le chiffre absolu. Donc, on parle bien de 65 écoutes en plus ou d'un plus 9%.
Oui, oui. Alors, moi, ça me faisait rire parce que c'est vraiment une manière de voir les chiffres. Alors, comme on a fait les deux HEC, hein, donc on savait qu'on avait un cours qui s'appelait « Faire parler les chiffres », et là, c'est un vrai bon exemple. Moi, je connaissais mes financiers, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je travaille, et eux, ils utilisent soit l'un, soit l'autre selon que ça les bénéficie. Ils disent « Bon, ben voilà, c'est en termes absolus, c'est que 5 francs, ce qui est rien du tout, ou en termes absolus, ça fait 10%, ce qui paraît énorme. » Et là, on est exactement dans ce cas de figure. On fait « Ouais, 65 écoutes, c'est pas grand-chose. » Mais plus 9% d'augmentation, c'est pas mal, Marco, non?
Alors écoute, toi tu connais les financiers, moi je connais aussi les vendeurs. Et je reconnais que dans ma petite expérience, j'ai noté que quand je parle en pourcent, c'est soit que j'ai envie de rendre plus rose la vie, soit parce que j'ai des mauvais vendeurs à côté de moi qui ont simplement envie de relater la valeur relative qui donne toujours moins que l'absolu, quoi. Voilà, moi j'ai pas d'exemple où la valeur absolue claque moins que la valeur relative.
Oui, alors moi j'ai un exemple, c'est un exemple vécu. L'année dernière, dans un des pays, on avait mis un budget très élevé, un budget très conséquent qui était à plus de 15 ou 20% de plus que l'année d'avant. Donc vraiment conséquent en termes de vente. Et finalement, on se retrouve à la fin de l'année à plus 10%. Donc c'est vrai qu'on peut être frustré en se disant « Ouais, on n'a pas atteint le budget », mais quand on regarde et puis qu'on se dit « Bon, on a quand même réussi à faire plus 10%, c'est quand même une augmentation par rapport à l'année dernière », c'est là que je vois que le pourcentage peut aussi nous mettre du baume au cœur et nous dire « Hey, c'est pas si mal ce que tu as fait ».
Bon, allez, soit. Continuons. En fait, moi, je voulais ajouter peut-être un petit argument également sur les moyens de promotion qu'on utilise. Par exemple, LinkedIn. Et c'est vrai que assez régulièrement maintenant, on agit sur les trois cercles. Voilà, on a jusqu'à trois cercles de connaissances autour de nous à travers le site dont on parle souvent, hein, LinkedIn. Et là, l'idée, c'est qu'on est assez régulièrement jusqu'au troisième cercle de gens, soit qu'ils regardent la news, écoutent le podcast, soit qu'ils like, soit qu'ils commentent. Donc, c'est vraiment de très, très belles perspectives.
Ok, très bien. Et tu voulais faire quelques petits saluts ou des ja comme ça à quelques auditeurs?
Alors, je fais un petit ja, en fait, à Dagotier, qui est un nouvel auditeur, visiblement, de Nip Sales, qui a l'air de bien aimer, en fait, notre podcast. C'est assez cool parce que sa réaction sur l'un de nos podcasts était, en fait, le deuxième. Celui, on a parlé de la campagne Get Carlified. Donc, le fameux Karl Lagerfeld qui s'est fait digitaliser notamment par l'agence Imakina, une très belle agence, hein, une très belle campagne qui a fait passer un monde retail et luxueux, simplement sur Internet. et les remerciements de Manuel Diaz, un ponte de la communication, qui nous a dit bah, merci et à Dagotier et à nous-mêmes pour cette belle communication sur sa campagne. Donc, si vous voulez réécouter un moment, je trouve, allez, sympathique de Nip Sales, c'est l'épisode numéro 2 et c'est environ une quinzaine de minutes où on parle pendant la conférence ou dans le cadre de la conférence Créa Digital de la campagne Get Carlified.
Parfait. Et pour nous écouter, c'est tout simple. Vous allez sur nipsales.com, N-I-P-S-A-L-E-S.com. Tac, vous êtes redirigé sur notre sur Nipcast dans la section Nipsales. Donc, vous n'avez même pas besoin de réfléchir où aller. Vous tapez nipsales.com et vous y allez et vous pouvez réécouter. C'est ça qui est pas mal quand même avec Nipsales, c'est que finalement, on parle pas beaucoup de news comme dans la technologie. Donc, vous pouvez aller réécouter les autres épisodes et elles vont normalement vous apporter aussi, j'espère, quelque chose. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, vous voyez, on a eu 9%. Donc, maintenant, c'est une des choses que vous devez faire en entendant ma voix et celle de Marco, c'est maintenant vous tweetez, vous faites quelque chose pour faire connaître votre podcast favori qui s'appelle Nip Sales, et comme ça vous verrez, vous aurez un bon karma, vous vivrez plus longtemps, vous maigrirez, vous serez hyper heureux pour cette journée-là. Alors, au son de ma voix, s'il vous plaît, vous faites quelque chose pour faire connaître Nip Sales.
Michael, tu vas devenir un gourou d'ici le confinement, toi. C'est tout ce que je te souhaite.
Ah ben, il faut essayer, allez. Alors, on va passer à l'expérience de la semaine, ce qui est intéressant. Marco, c'est pas que j'avais pas d'expérience, mais j'en avais moins que toi, en tout cas cette semaine. Et on va parler de tes expériences à toi, parce qu'elles sont très cool. Alors, je t'écoute. Allez, vas-y.
Écoute, je vais avoir besoin de quelques avis et je suis sûr qu'on va réussir à échanger sur plus d'une d'entre elles. En fait, je vais commencer avec une news. On s'est fait relancer par un de nos auditeurs. Donc, je salue Mathieu au passage, qui nous avait posé une sacrée colle, en fait, lors de la première émission et qui était de savoir comment est-ce qu'on fait pour vendre quelque chose de gratuit. Alors, je te pose la question, Michael. Comment tu ferais, toi?
Alors moi, la première chose qui m'est venue à l'idée, puis on en parlait un tout petit peu juste avant l'émission, c'est de dire waouh, mais est-ce que donner quelque chose de gratuit, c'est de la vente? C'est ça la première question que je me suis dit. Normalement, il y a toujours un échange vente-vendeur. Si je fais quelque chose de gratuit, c'est du bénévolat. Donc, c'est ça ma question. Est-ce que c'est vraiment de la vente de donner quelque chose de gratuit?
Moi, je rétorquerais qu'effectivement, on pense souvent à la vente. Donc, on vend un objet en échange d'argent. Oui. Et moi, j'ai envie d'associer, par exemple, le troc comme un acte de vente où on donne quelque chose en échange de quelque chose d'autre. On peut même donner jusqu'à son corps, hein, pour prendre les exemples les plus extrêmes. Est-ce que c'est vraiment un exemple extrême, d'ailleurs? Mais à mon avis, vendre quelque chose de gratuit, c'est possible. C'est pas évident. Et l'idée, c'est peut-être de comprendre comment est-ce qu'on peut procéder. Et je dirais qu'il y a peut-être même différents cas de figure.
Ouais.
Donc, par exemple, le modèle freemium que tu évoquais tout à l'heure, bah, c'est un des modèles où on vend quelque chose de gratuit à une grande masse. Hein. Je crois que la grande masse, c'est un point qui est important pour qu'une toute petite masse puisse simplement en fait acheter quelque chose à un prix plus cher. Oui. Tu commentes?
Oui, il y a plusieurs types de modèles freemium. Un qui me vient vite à l'esprit comme ça, c'est Evernote. Vous connaissez peut-être Evernote où on peut mettre toute sa vie, toutes ses notes, tous ses trucs. Finalement, il est gratuit pour 99% des gens et il y a 1% des gens qui payent. Et ça, le CEO de Evernote le sait. Et il avait rajouté quelques fonctionnalités. C'est vrai qu'il sait qu'après un moment, les gens vont commencer à payer, dont moi, par exemple, parce que mais je peux synchroniser mes Evernote sur toutes mes plateformes facilement, les voir offline, tout ça, et puis ça, je paye. Et ça, finalement, ce freemium modèle, il fonctionne. Il fonctionne pour 1%, mais 1% sur des millions d'utilisateurs ou des dizaines de millions d'utilisateurs, ça paye. Moi, une chose que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'est que finalement, on vend pas quelque chose de gratuit. On fait peut-être un échange différent. C'est comme les journaux. On pourrait se dire, bon voilà, les journaux, avant, on les payait. Et puis maintenant, il y a des journaux comme 20 minutes, comme d'autres qu'on voit un peu partout, Métro, qui sont gratuits. Mais finalement, c'est pas gratuit. Ce qu'ils échangent, c'est ton attention pour regarder de la pub afin d'avoir de l'argent. Donc, je pense que le gratuit, il faut vraiment bien le réfléchir en termes qu'on n'offre pas forcément quelque chose de monétaire, mais on échange quelque chose qui a une valeur pour nous.
Mais tu as justement dit un des deux mots-clés que je pense important de retenir quand on veut vendre quelque chose de gratuit ou de pas cher du tout. Je vais donner encore tout à l'heure un exemple de pas cher du tout. Alors, tu as dit valeur et c'est un des deux mots que j'aurais cité, c'est valeur ou valorisation. Et le deuxième, c'est masse. Je pense que dans les différents exemples qu'on va aborder, donc là, tu as parlé du modèle freemium, d'un tas de logiciels ou de solutions Internet qu'on trouve actuellement. Il y a également le modèle des médias, hein, par exemple, un journal qu'on connaît bien en Europe qui est 20 minutes, qui simplement valorise à l'échelle d'annonceurs une masse de lecteurs qui ont de l'attention par rapport aux nouvelles qui sont données tous les jours. Donc d'un côté, la masse, on lui donne quelque chose de gratuit, effectivement, et ça coûte très cher de publier un quotidien tous les jours et de le distribuer aussi largement que le fait 20 minutes dans différents pays. Et d'un autre côté, parce qu'on arrive à acquérir l'attention de grandes masses, eh ben, il y a d'autres personnes qui seraient intéressées à prendre un tout petit bout de cette attention. Donc valeur et masse, je pense que c'est les deux mots-clés à retenir. Je vais prendre en fait un autre exemple, c'est celui que je connais bien de l'eau minérale. Hein, j'ai eu travaillé d'abord comme responsable marketing, ensuite comme key account manager dans une grande multinationale qui vend de l'eau minérale. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on dit que l'eau n'a pas de prix d'un côté, puis de l'autre, je dirais qu'à moins de, je crois, 50 centimes francs suisses, donc ça vaut quoi, 40, 45 centimes d'euros, on peut trouver un litre d'eau minérale qui est commercialisée dans une bouteille en PET, qui est refermée par un bouchon et qui est souvent munie d'une étiquette en plastique ou en papier autour d'elle, qui pourrait laisser présager une valeur même plus importante que celle d'acquisition, prise à l'unité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gagner encore de l'argent puis pour être un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire lorsqu'on vend quelque chose qui n'a quasiment aucune valeur à l'échelle du shopper et donc du consommateur final?
En Europe, on va dire, parce que dans d'autres pays comme en Asie ou en Afrique, enfin dans d'autres continents, l'eau a de la valeur, mais on va dire.
Je suis d'accord avec toi. Oui. Merci, Michael. Merci de le rappeler. On va dire que dans ces cas-là, ce qu'il faut jouer, c'est sur les masses. Voilà, donc les masses de bouteilles qui sont vendues, donc à l'unité, ça te fera peut-être quelques centimes de marge vendue par bouteille, et tu dois en vendre mais des centaines de milliers, voire des millions. Et c'est la raison pour laquelle, alors là, je suis sur la valorisation. Il y a des calculs de fous qui sont faits. Là, c'est grâce aux services financiers hein, des multinationales qu'on arrive à faire ces calculs pour voir quel est le mécanisme promotionnel qui est à mettre en place pour vendre le maximum de bouteilles possibles au minimum de rabais prix consenti. Je me rappelle par exemple que nous on faisait des études pour savoir est-ce que c'est 20% de rabais, 33% de rabais ou 50% de rabais qu'il faut proposer aux shoppers afin d'avoir le plus gros levier. Entends par là que par rapport à l'argent que tu remets à ton client, donc à le distributeur, hein, par exemple Auchan, par exemple que sais-je, Carrefour, l'idée c'est de dire pour cet argent-là, il faut que j'ai un maximum de personnes qui viendront acheter leurs bouteilles, et sachant que tu dois aussi prendre en compte le réachat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui ont acheté, j'en sais rien moi, 12 six-packs de bouteilles d'eau, ils ne vont pas revenir les 3 semaines suivantes, et donc ils ne vont pas remettre de la valeur à plein pot sur des bouteilles qu'ils auront déjà achetées une fois. Donc toute la difficulté, c'est de valoriser d'une part le rabais promotionnel et donc la valeur que tu auras en retour en termes de vente, et de savoir à quelle masse tu vas pouvoir parler et donc combien de ventes tu vas pouvoir réaliser.
Moi, ce que j'aime aussi dans cette réflexion que tu as amenée, c'est de dire finalement, quand on se base sur quelque chose de gratuit, on doit parler à la masse. Parce que souvent, on va faire un service gratuit ou quelque chose de gratuit, notre but, c'est de récupérer notre mise ou notre argent d'une autre manière. Comme je disais Evernote, comme je disais peut-être dans tout ce qui est médias, voilà, ils le récupèrent d'une autre manière. Et ça, je trouve intéressant. Donc, je dirais, une des règles, c'est que si on fait quelque chose de gratuit, on doit essayer de le diffuser à la personne, au plus grand nombre, pour essayer peut-être de se faire de l'argent avec des Google Ads. Je voulais rajouter deux petites choses pour moi à ce niveau gratuit et payant. Je voulais parler des différents types de business model. On en avait déjà un peu parlé, soit dans Niptech, soit dans Nipsales, en disant, regardez le business model d'Apple. Apple vend du hardware, aussi du software maintenant, mais vend du hardware et veut se faire de la marge sur son hardware. C'est ça. Apple ne vont pas vendre des iPhone ou des iPad à perte. Maintenant, regardons Amazon. Amazon utilise son Kindle Fire, qui est une sorte de tablette comme l'iPad, pour pouvoir vendre des choses sur son site Amazon.com, des livres, des Kindle, des e-books, et aussi de la marchandise. Donc eux, ils n'ont pas besoin de se faire de l'argent sur les machines. Un peu comme Nespresso qui ne se fait pas d'argent sur ses machines, ou Dolce Gusto qui ne se fait pas d'argent sur ses machines, parce qu'ils se font de l'argent sur les capsules. C'est un peu la même chose. Donc d'un côté, tu as des business models qui s'affrontent, alors que tu as des vendeurs qui veulent se faire de l'argent sur du hardware comme Apple, tu en as d'autres qui ne veulent pas comme Amazon, ou tu en as d'autres comme Nespresso qui ne se font pas d'argent sur la machine à café mais sur les capsules, et tu as d'autres grands vendeurs comme Jura qui se font de l'argent sur la machine elle-même. Et je trouve que c'est ça un peu intéressant de voir le gratuit versus payant, on va dire ça comme ça.
Mais moi, ce que je trouve intéressant, peut-être pour résumer la réponse à cette problématique, en tout cas celle de Nipsel, sachant qu'on y a quand même un minimum réfléchi, moi je dirais qu'il y a deux mots-clés qui sont importants, c'est valeur ou valorisation et masse. Je pense que quel que soit le business model, et il y en a plein qu'on vient d'aborder à titre d'exemple, il faut savoir où est-ce qu'on place la valeur ou la valorisation et à quelle masse est-ce qu'on s'adresse. Moi, je vais même prendre le dernier exemple, c'est celui de Nipsel, parce que Nipsel, c'est une offre gratuite, puis je peux vous assurer qu'on essaie de la vendre. L'air de rien, hein, on vous vend toutes les deux semaines un contenu, puis Dieu merci, ça grandit en termes d'audience d'une émission à l'autre. À un moment donné, on essaie d'apporter quelque chose de valeur, on essaie de peser cette valeur, de l'augmenter à chaque fois, on essaie de grandir en fait ces audiences, et tout ça, on va dire, pour un monde, je dirais, plus d'annonceurs, ou peut-être plus événementiel, hein, si on considère qu'il se passe quelque chose toutes les deux semaines, où il s'agira de convaincre des personnes qu'elles peuvent parler à ces audiences. Donc, un exemple aussi petit que le nôtre, je pense que c'est deux mots-clés qui restent importants.
Alors en somme, tu dis à nos auditeurs, ne vous barrez surtout pas parce que dans quelques années, on va vous bourrer d'Ipsales de pub, histoire que vous dégagez. Non, je rigole, c'est pour rire. En tout cas, je trouve que tu as très bien résumé l'expérience. Une très bonne chose, je pense que c'est cool de parler du gratuit, j'aime bien, surtout parce que la venue de l'Internet, elle révolutionne un peu tous les business models et donc on est face à ça, ce qui est très intéressant. Allez, on passe à la deuxième expérience de la semaine, la solitude du vendeur, que je trouve un sujet extrêmement beau et je m'en réjouis d'en parler. Marco, je te laisse la parole.
Eh ben merci. Alors je dois dire que là, c'est à notre ami Julien que je vais passer des salutations, parce que c'est avec lui que j'ai échangé à ce sujet et c'est lui qui en fait qui m'a inspiré ce sujet pour Nipsales. Alors en fait, c'est deux vendeurs qui se rencontrent, deux vendeurs qui sont également actifs dans le domaine de la communication, et il m'a posé cette question en fait: est-ce que tu te sens pas seul de temps en temps? Et je lui ai répondu que oui, ça tombait de manière extrêmement juste comme question, parce que je venais, on va dire, de passer outre une affaire qui était très intéressante à mes yeux. J'ai compris en fait cette question comme est-ce que ça t'arrive pas de te sentir seul face au vent, seul, on va dire, dans ta situation, d'avoir de la difficulté en fait à l'expliquer à l'interne une fois que tu as échangé, hein, parce qu'on est souvent en contact avec un tas de personnes, hein, pour parler de nouvelles opportunités de business. Et est-ce que du moment que tu as senti, tu as flairé quelque chose, tu reviens, est-ce que c'est si facile pour toi d'être considéré comme le ponte qui ramène des affaires? Donc je sais pas si toi tu as un avis là-dessus, Mike, avant que je donne le mien et celui de Julien qui était partagé.
Ben, moi, en tout cas, je vais prendre un peu le contre-pas, parce que quand j'entends solitude du vendeur, moi, je vois pas solitude face à l'interne ou face à une idée. Je pense plutôt solitude face au vendeur lui-même, face à son téléphone, parce qu'on est tout seul face au téléphone qu'on doit prendre pour appeler son client. On est tout seul dans sa voiture quand on va de client à client. Et bien sûr, on est tout seul dans l'avion qui nous amène de X à Y pour aller voir son troisième client et espérer faire un deal. Et pour moi, c'est plus ça, la solitude, c'est un peu le calme avant la tempête, cette solitude où tu tournes dans ta tête ce qui s'est passé, tu tournes dans ta tête ce qui va se passer, tu tournes dans ce qui pourrait se passer, et c'est ça plutôt la solitude du vendeur, qui est supposé, selon moi, être un vendeur un peu, tu vois, sympa, qui parle, qui est entouré de gens, puis finalement c'est pas tout le temps le cas, on est des fois aussi seul.
Oui, alors tu sais, moi j'ajouterais aux exemples que tu as donné tous ceux où tout d'un coup tu as un client qui demande un prix. Voilà, et en fait des prix, ça se discute souvent à l'interne justement avant d'être communiqué. Oui. Puis il faut être parfois dans la réactivité face au client, on va dire, qui veut une réponse parce que sa marchandise n'a pas été livrée. Face au client qui est en fait mécontent et il t'appelle toi parce que c'est toi la personne de contact, et puis en fait ça arrive que donnant les retours, hein, sachant que tu peux être loin la plupart du temps. Je me rappelle que j'ai aussi beaucoup discuté avec des amis représentants qui, eux, en fait, n'avaient carrément pas de bureau, on va dire. Là où moi, je travaillais, c'est-à-dire que je rentrais quand même chaque semaine à mon bureau, eux n'en avaient pas. Eux, leur bureau, c'était chez eux. Et c'est vrai que ça leur arrivait de dire, mais on me répond comme si j'étais un inconnu. Donc, en fait, c'est une solitude qui est mêlée de beaucoup de compagnies. Quand on est entouré de ses clients, entouré de ses prospects, et tout d'un coup, en fait, on revient, on pense qu'on va nous faire un pont d'or, hein, qu'on a ramené vraiment l'idée ou l'affaire du siècle, et que tout d'un coup on dit non mais attends, ton idée c'est bon quoi, on n'a pas que ça à penser. Et je dirais que là où on s'est vraiment rejoint avec Julien, c'est qu'il me disait c'est difficile de vendre son flair. Voilà, il disait ça arrive qu'un vendeur, hein, quand il est face à un prospect, là je parle vraiment des vendeurs qui font de la prospection et pas seulement du suivi, c'est pas facile d'expliquer parfois qu'on sent quelque chose. Alors on a des arguments, c'est des arguments qui résonnent peut-être moins quand les personnes avec qui on doit discuter, hein, de ces opportunités, ça peut être des financiers d'un côté, ça peut être le marketing de l'autre, ça peut être parfois même la direction générale, hein, en fonction de la grandeur de l'opportunité et puis des investissements qu'il va falloir y mettre. C'est pas facile de vendre son steak alors que on a souvent parlé, hein, de l'ego du vendeur. Moi, c'est vrai qu'il y a des fois où j'étais fier de ce que je pouvais raconter ou ramener comme idée ou comme affaire potentielle. Et puis, c'est vrai que personne ne nous attend et qu'il faut encore réargumenter face à des gens qui alors font partie de notre équipe. Et une forme de frustration qui pouvait en fait naître du fait de toujours se justifier alors qu'à un moment, on a envie de passer pour le roi, quoi.
Moi, je trouve intéressant le mot flair. En anglais, c'est une bonne traduction parce que je cherchais une traduction pour le mot hunch. Un hunch en anglais, c'est du flair en fait. C'est une sensation, quelque chose qu'on a à l'intérieur qui nous dit ça pourrait marcher. Et finalement, moi, je crois beaucoup qu'il faut faire confiance justement à ces petits hunchs, à ces flairs qu'on a dans la vie. Et j'y crois énormément. Le vendeur, peut-être parce qu'il a un côté peut-être un peu plus d'intelligence émotionnelle que les autres. Allez, on va se vanter un peu. Il sent ça. Il sent cette chose, cette troisième chose. Et moi, je dois dire, il n'y a aucun entrepreneur ou aucun grand patron qui a créé une multinationale qui a créé quelque chose avec succès sans avoir suivi son flair, sans avoir suivi ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et je pense que des fois, il faut le faire. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut avoir un coût. Donc, il faut toujours contrebalancer le flair et le coût que ça peut avoir. Mais moi, j'y crois énormément. Et je me dis, écoute, si tu es face à ça et qu'à chaque fois on te rembarque, je ne parle pas de toi, hein, je parlerai peut-être d'un autre vendeur, quitte ta boîte et va ailleurs. Voilà ce que je te dirais. Il ne te mérite pas.
J'adore, quoi. Donc là, c'est aussi l'ego d'un vendeur qui parle, mais de temps en temps, ça ne fait pas de mal à entendre non plus. Tu sais, on s'est demandé, en fait, avec Julien, pendant ces petits coups où on est down, hein, parce que ça arrive que tout d'un coup, on a besoin de se retrouver, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi, je dirais qu'il y a finalement un moyen qui est assez simple, c'est de le partager, de partager avec ses collègues vendeurs. Donc, un vendeur en connaît souvent plein d'autres, hein, que ce soit dans son entreprise, dans son secteur d'activité, voire même en dehors de son secteur d'activité. Moi, je suis sidéré en fait de voir le nombre d'amis que j'ai qui sont également vendeurs. Je crois que on s'entoure de gens qui nous ressemblent également. Et je pense que c'est un sujet, moi en fait, quand je te l'ai soumis, Mike, tu m'as dit que tu l'avais tout de suite aimé. Je crois qu'il y a tout de suite manière à réagir, à avoir une opinion dessus. Puis je crois que qu'on parle de cette solitude qu'on peut ressentir dans sa voiture ou de ce flair qui n'est pas vraiment partagé, on peut très vite arriver en fait à une connexion, quoi, où on échange, on partage des expériences, on rigole un coup, puis après ça va mieux.
Oui. Ah très bien. Je trouve que c'est une bonne manière de le faire et je m'en souviendrai. Donc je t'appellerai la prochaine fois, Marco.
Ouais. Ça sera très cool. Avant de pleurer, hein, je te recommande.
Parfait. Allez, je pense qu'on a un peu de temps puis on avance bien. Puis j'ai quand même envie d'entendre ta troisième expérience, parce qu'elle est quand même cool. Ça s'appelle le beat de la semaine. Alors il n'y a pas que du succès dans la vente. Il y a aussi des côtés qui ne fonctionnent pas. Ce qu'il faut, c'est juste apprendre de ce qui fonctionne pas souvent. Et Marco, vas-y, explique-nous le beat de la semaine.
Bon, alors tu sais, j'adore parce que j'ai l'impression qu'on s'est grouillé d'avoir une troisième news pour entendre le beat de la semaine, quoi. Je vais l'assumer, hein, je vais l'assumer. Et puis en fait, il fait suite à pas mal d'échanges qu'on a eu à ce sujet. C'est la relance, quoi. La relance d'un prospect où évidemment, on parle d'un prospect où j'ai une solution pour lui. Je pense que c'est vraiment une solution qui pourrait lui apporter deux bénéfices. Donc là, je suis dans le cadre d'Orecast, donc mon projet de startup. Je fais une minuscule parenthèse sans faire de pub qui traite de big data, qui permettrait, on va dire, servir à des réseaux de distribution. Ils peuvent être petits ou grands, dans le domaine du convenience, du retail, voire de la gastronomie, de pouvoir bénéficier d'informations un petit peu inédites sur leur manière de vendre, sachant qu'ils sont pas aussi bien structurés que des grands magasins, et que au bénéfice de cette information, qui est déjà, on va dire, une plus-value, ils auraient la possibilité de la partager et de la vendre avec des fournisseurs, donc des multinationales également, qui seraient très intéressés à voir comment se passe leur vente par rapport à la vente de leurs concurrents. Et je dirais que là, j'étais dans le cas donc d'un magasin, d'un réseau de magasins convenience, qui, je sais, a déjà eu des discussions avec d'autres partenaires. On n'est pas les seuls à proposer ce genre de service. Je dirais que c'est plutôt notre business model qui est intéressant. Et l'idée, c'est que ça a capoté. Donc, j'ai des informations assez précises, pas sur le comment, mais en tout cas sur le fait que c'est arrivé. Et en fait, mon point de vue, c'est une frustration, mais qui va vite passer, je vous rassure. Un, parce que je sais que cette solution permettrait d'apporter les deux bénéfices. Deux, parce que je sais que c'est un client, un prospect, disons, qui a déjà un intérêt puisqu'il a déjà eu des échanges. Et trois, parce que je sais que c'est finalement rien d'important qui fait qu'on n'a pas encore eu ce contact, simplement qu'il avait des autres dossiers à terminer, qu'il avait des projets à boucler, des discussions à avoir. On n'est pas toujours sur le radar des personnes, même quand on a une super solution pour eux.
Oui. Moi, c'est marrant parce que j'ai exactement le même exemple en ce moment avec deux grands groupes européens ou avec lesquels je voulais faire un contrat européen. Et pour pouvoir ouvrir des pays, des ci, des ça. Et c'est vrai que j'ai commencé, j'ai initié, j'ai envoyé des propositions, comment on pourrait faire, comment dans les pays, comment on pourrait se mettre d'accord, bien sûr, combien on devrait payer en plus, hein, parce que ça se paye toujours. Et je vais faire des propositions. Et je relance, mais je vois que l'intérêt d'un de mes interlocuteurs a commencé à baisser. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas trop assez gros? Est-ce que parce qu'il a d'autres choses à faire? Voilà. Alors je relance, mais j'essaye de pas devenir le gars chiant, le gars casse-couille auquel on n'a pas envie de parler. On en avait déjà un petit peu parlé de ça, et ça c'est pas facile. C'est pas facile. Et finalement, au fur et à mesure que ça a continué à avancer, que je vois que peut-être ça va pas se faire, je me dis qu'il y a peut-être une raison pour laquelle ça va pas se faire. Et finalement, si lui, il y trouve pas son avantage, ça veut dire que c'est peut-être pas mûr, qu'on n'est pas mûr pour se rencontrer à ce moment-là. C'est ça que je me dis aussi en regardant la chose.
Ouais, écoute, moi j'aime beaucoup ton point de vue. Et je pense qu'il a à mettre en parallèle avec les conclusions que moi j'ai tirées. Alors la première, et je crois que l'ordre est hyper important dans ce cas-là, c'était de rester patient, d'être patient. Oui. C'est vraiment pas ma première qualité.
Moi non plus.
Je dis presque avec un peu de nervosité, quoi. Mais en gros, il faut rester patient. Et la deuxième, en fait, elle doit arriver juste après, c'est d'être persévérant.
Oui.
Voilà. Donc, sans saouler, là, merci de le rappeler, Michael, il faut vraiment pas saouler son interlocuteur, parce que c'est le meilleur moyen qu'il ait juste plus jamais envie de vous parler. C'est vrai que j'ai déjà utilisé une des fameuses recommandations données dans Nipsales, qui est de varier ses moyens de relancer. Donc là, c'est vrai que je suis passé par le téléphone, j'ai passé un petit message, un petit message comme ça, vite fait, à une assistante qui a répondu. J'ai renvoyé, en fait, un mail concret pour une proposition et, on va dire, une semaine plus tard, une petite relance pour voir si tout était OK et que je répondais volontiers aux questions. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction et je suis tenté de dire que c'est peut-être à travers ces différents moyens que j'aurai quand même la possibilité à un moment de poser le point, parce qu'il y a simplement un event qu'a prévu, donc c'est le lancement, l'ouverture d'un nouveau magasin, ça aura lieu d'ici quelques semaines. Donc pour moi, ce sera le temps de me faire oublier un tout petit peu. 2-3 semaines, c'est le temps vraiment presque de sortir d'un radar. Et en fait, j'ai déjà accepté cette invitation. Je me réjouis parce que, évidemment, la personne sera là et il y aura des poignées de main qui seront serrées. Et je pense qu'un cadre un peu plus convivial où on peut parler, disons, d'autres choses. C'est vrai que moi, j'écoutais encore un bon ami à moi qui travaille plutôt dans l'hôtellerie où là, la relation, c'est la clé. Puis lui, il me dit, mais tu sais, tant que les mecs ont pas 2 pour 1000 dans le sang, moi, je fais aucun business. Donc, il le disait en rigolant. Mais je vois exactement ce qu'il veut dire. Il a dit, mais c'est pas pour l'alcool ou le bon vin que j'offre qui se rappelle de moi, c'est pour l'expérience qu'on partage ensemble. Et je crois que là, on change de niveau. On n'a plus rien à voir avec la vente, on n'a plus rien à voir avec des arguments. Est-ce que la solution est bonne ou pas? Est-ce que c'est même une solution pour la personne qu'on a en face? Mais je crois qu'on est quand même en train de construire de la confiance et on est en train de construire une forme de respect qui fait que peut-être la prochaine fois où, après avoir passé un bon moment avec une personne, on s'adresse à lui, on aura au moins une réponse. Et je me dis qu'on arrive déjà à un niveau plus élevé que celui que j'ai atteint jusqu'à maintenant.
Oui. On parle toujours de confiance. Une chose qu'il faut quand même rappeler, hein, parce que on avait déjà parlé de cette statistique, il faut en moyenne contacter une personne 7 fois pour faire une vente. Hein. C'est pas comme si on n'est pas rien contre les gens qui travaillent comme caissiers dans des magasins. J'ai rien contre eux, mais on n'est pas des caissiers. On n'est pas, on fait pas de la vente transactionnelle. Sinon, on n'est pas des vendeurs. On se bouge pour aller chercher des prospects. Donc, il faut le faire. On l'a dit, au minimum 7 fois en moyenne pour pouvoir avoir la vente. Donc voilà, il faut quand même persévérer. Alors moi, je me mets dans ce cas-là. Je me mets aussi en premier sur la liste que je vais faire demain en me réveillant. Je vais aussi contacter ces deux grands groupes européens pour réinitialiser ce truc, et on s'en fout, même s'ils me détestent à la fin, on le fera. Alors maintenant, quelqu'un nous a dit une bonne chose sur Twitter, il nous a dit mais nous on aimait l'action de la semaine de Nip Sales, maintenant vous ne nous donnez plus rien à faire. Alors maintenant on va vous donner quelque chose à faire, c'est que maintenant à tous ceux qui ont, alors pour les vendeurs, vous devez recontacter au moins un de vos prospects restez sur votre liste auquel vous n'avez pas retéléphoné. Pour X raisons, parce qu'il n'a pas répondu à votre offre, parce que si, parce que ça, eh ben vous devez faire l'action ce lundi en écoutant Nip Sales, de reprendre votre téléphone et de le contacter. Au moins un. Bon, je ne vous donne pas les 10 prospects ou les 50 que vous avez, mais au moins un.
Et ni ceux que vous n'avez même pas notés sur votre liste parce que vous êtes des flemmards. Et ça aussi, ça arrive, je le sais bien. Voilà. C'est vous en recontacter un. Et puis moi, je vous dis, ça fait du bien. C'est des fois juste de se lancer. Oui. Même un téléphone qui sonne dans le vide, ça donne du courage. Quoi.
J'irais surtout
même
le lundi.
Commencer par ça.
Surtout le lundi. Et voilà. Et ça, c'est pour tous ceux qui ne sont pas vendeurs, donc qui n'ont pas des prospects. Ben, vous allez prendre la chose la plus dure que vous avez sur votre liste et vous allez faire ça. Non, vous n'allez pas regarder vos emails ou regarder des trucs qui seront faciles à faire, vous allez prendre la chose la plus dure que vous laissez traîner et clac, vous allez faire un petit truc pour le réaliser. Et je suis sûr que vous serez beaucoup plus heureux vendredi prochain. Allez.
Et dites-vous que si vous avez la bouche un peu pâteuse le lundi matin en commençant, votre interlocuteur l'aura aussi.
Ok, d'accord. Parce qu'il avait 2 pour 1000 dans le sang le dimanche. Oh mon Dieu. Allez, on va continuer. Bon, voilà, les expériences de la semaine, c'est terminé. On va passer aux weekly news. Alors, les news. Alors, ceux qui écoutent un peu NipTech, comme ça, ils m'ont déjà entendu parler de cette news, mais j'en peux tellement plus qu'il faut que je te la pitch, Marco. Et puis, est-ce que c'est moi qui pense que c'est une révolution ou c'est une réelle révolution? Donc, tu vas me le dire. Voilà. Alors, ça s'appelle Dash. Ça s'appelle Amazon Dash. Vous connaissez, je suis fan d'Amazon. Hein. Moi, vraiment, je trouve que c'est vraiment des gens incroyables. Et surtout, ce qu'ils ont créé là. Alors, Dash, c'est quoi? C'est un espèce de, comme une mini télécommande que tu as chez toi qui te permet de scanner. Pas avec une photo, quoi. C'est pas un téléphone, mais qui te permet de scanner des articles tout simplement dans ta maison, des articles de bouffe, de ci, de ça. Automatiquement, ils sont envoyés à ton téléphone et automatiquement, tu peux les commander sur Amazon Fresh. Amazon Fresh, c'est ils vendent de la bouffe, quoi. C'est surtout en Californie qui testent ce produit. Et finalement, qu'est-ce que c'est Dash? C'est par un téléphone, c'est ça. C'est une petite, un petit truc qui te permet soit d'acheter comme ça dans ton frigo n'importe où en scannant un petit code barre. Et aussi, tu peux parler si tu veux, tu peux aussi décrire l'article et puis normalement, il arrive à te le rechercher pour pouvoir ensuite l'acheter en ligne. Et moi, je pense que c'est une révolution. Pourquoi ? Parce que je pense que c'était l'article qui manquait pour vraiment me pousser, moi, Michael, à faire mes achats et mon e-shopping en ligne. Parce que aller chercher tout ça, ça m'embêtait. Mais ça, scanner un article, faire comme je fais actuellement dans les magasins et l'avoir directement en ligne, pour moi, c'était l'outil qui me manquait. Et c'est pour ça que je pense que c'est une vraie révolution. Qu'est-ce que tu en penses, Marco ?
Alors, dis-moi si j'ai compris juste. Nous parlons donc d'un petit outil ultra portable hein, qu'on tient dans sa main et qui permet, on va dire, une fois qu'on a terminé un produit dans son frigo à la maison, hein, de prendre la boîte de ce produit et de simplement scanner donc le fameux code barre qu'il y a sur cette boîte, sur cette bouteille, sur cette conserve ou que sais-je encore.
Ou sur ce titre, sur n'importe quoi.
Ok. Et puis, d'être livré, je dirais, dans un délai qui reste à définir. Eh bien, écoute, autant je dois dire que tes délires sur Amazon, j'y ai jamais forcément monstre adhéré, que dans ce cas-là, je trouve ça assez génial parce que c'est également un frein que moi je ressens. C'est-à-dire que moi, les deux freins que j'ai pour ne pas passer à travers l'e-shop, un, c'est de devoir aller justement devant mon ordinateur. Ouais. Ça m'embête d'aller devant mon ordinateur. En fait, c'est un côté, ça me demande du travail. Et ensuite, j'ai pas l'expérience, je tâte pas le produit, j'en ai pas vraiment envie. Et je dirais que ça lève un petit peu ces deux soucis. Oui. Parce que une fois que j'ai fini mon produit, je me dis zut, je vais devoir repasser au magasin. Et c'est à ce moment-là
où tu dois le noter, où tu dois te faire chier à le noter. Et voilà. Ça, je l'oublie.
Et voilà, puis ça m'évite un travail. Et puis deux, il y a une sorte d'immédiateté comme ça, hein, sans avoir un travail préalable, qui fait que, bah, à la limite, c'est pas vraiment une expérience, mais c'est un truc qui est déjà réglé. Donc, écoute, assez balèze, quoi, assez balèze.
Oui, oui. Et je trouve aussi, c'est que tu fais du shopping chez toi. Et finalement, alors quelqu'un m'a dit, ouais, mais tu vas pas découvrir des produits. Alors, peut-être c'est un peu plus féminin, ou peut-être il y a aussi des hommes qui sont dans ce cas-là, je pense aussi beaucoup, mais moi, je pense que souvent, on mange la même chose ou on achète la même chose. Et moi, j'ai pas envie de découvrir. Une fois que j'aime ça, ben, je vais continuer à manger ce que j'aime. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne manière de choper. Bravo à Amazon. Dernière petite news sur eux. Ils vont lancer en juin un téléphone, donc un Amazon Phone, qui on imagine, pourra totalement se lier avec ce genre de petit outil, et qui va vraiment être un challenge pour nos amis d'Apple, parce que Amazon va sûrement l'offrir presque gratuitement, on va dire ça comme ça.
Eh ben,
allez,
quand arrêteront-ils?
Alors moi je dis jamais, parce que franchement les gars, les quatre dernières, ou les deux dernières semaines plutôt, ils ont sorti quatre ou cinq trucs qui sont vraiment incroyables, quoi. Alors bravo Amazon, continuez comme ça, révolutionnez-nous ce monde du retail. Et alors deuxième petite news que je trouve assez cool, que j'ai lu, c'est Google qui licence, ou si on veut bien, achète une sorte de software à dans l'hôtellerie qui s'appelle Chambre 77, qui permet de faire du booking online directement depuis les mobiles. Alors, je trouve ça intéressant. Pourquoi ? Vous me direz, ah ben Google, c'est clair, on tape un hôtel souvent, ben on voit les noms de l'hôtel, on voit les ratings qui remontent de Yelp, de TripAdvisor, que Google a gentiment volé pour les mettre en première partie sur son site. Mais moi, je fais très très rarement l'achat d'une chambre d'hôtel sur Google. Est-ce que toi, c'est aussi le cas, Marco ?
C'est tout à fait ça. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'expertise, en fait.
Voilà.
Je fais plus confiance à Booking.
Exact. Alors, on va sur Booking.com, Hotels.com, TripAdvisor, où on a Expedia et tout ça. Mais finalement, on ne le fait pas à travers Google. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de faire. Ils ont déjà acheté une boîte qui leur donne toute cette information sur le travel, tout ça. Mais là, ils vont une étape en dessus, où ils vont vraiment pouvoir te permettre de faire le booking directement depuis ton mobile. Et ça, c'est vraiment encore une nouveauté. Si vous croyez que Google ne va pas dans le sens de fournir du contenu, vous vous trompez, car ils vont vous bouffer si vous pensez ça. Alors, voilà. Ça, troisième petite news intéressante, et c'est l'homme de médias auquel je parle, Marco, parce que je sais que tu as bossé dedans.
Je t'écoute.
Une chose intéressante que j'ai pu lire, qui m'a étonné, c'est qu'ils disent, ils disaient qu'un nombre croissant de sites de e-commerce, donc des sites pure player online qui vendent à travers le online seulement, sont en train de bouger au print. C'est-à-dire, ils sont en train de créer des journaux de leur propre marque online pour pouvoir être plus proche du consommateur. Un exemple, c'était comme Net-à-Porter, qui est en train de créer des journaux et ils le disent, pour que le consommateur ait un contact physique avec eux, et qu'ils puissent aussi mettre en avant les différents produits ou fashion qu'ils ont sur leur site. Et c'est comme si ça les crédibilise d'être au niveau print. Alors, pour certains, ça sera un retour en arrière. Pour d'autres, ça sera, vous voyez, on a quand même besoin de tuer des arbres et puis de faire du print. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Marco ?
Alors moi, avant de te donner mon avis, j'aimerais te poser une question. Parce que moi, en fait, ce que je remarque, c'est que l'utilisation du papier a quasiment disparu, je dirais, dans une clientèle ou dans une cible que je trouve plutôt jeune. Et j'ai le sentiment que cette crédibilisation à travers le papier, elle agit encore pas mal sur une clientèle qui serait peut-être un peu plus âgée. Mmh. Un peu plus âgée, j'entends par quoi ? J'entends 35 et plus, ou peut-être 40 et plus. Mmh. Et puis, il faut quand même reconnaître que ces gens de 40 et plus, a priori, ils ont un boulot, ils ont une situation, puis ils ont pas mal de pognon. Et je me demandais dans quelle mesure, en fait, cette évolution, elle était pour englober également des gens qui ont maintenant une espérance de vie qui va facilement jusqu'à plus de 80 ans, et à partir de 40 ans, vraiment des salaires qui leur permettent permet vraiment d'acheter plus largement. Mmh. Tu penses que c'est lié ou pas, le fait d'agrandir un petit peu son public cible et de pas seulement toucher du jeune ou du moins jeune, mais du plus de 40 ans, ouais, voire plus de 50 ans?
Écoute, ils n'en parlent pas dans l'article, mais ça fait sens en se disant, ben voilà, c'est vrai que tu peux toucher des gens qui ne sont pas que online. Mais à vrai dire, vu que c'est des sites de e-commerce, il faut quand même passer par le online pour pouvoir acheter. Vous me direz, de toute façon, les sites de e-commerce et d'online, c'est quoi? C'est pas différent que ce que nos grands-mamans faisaient quand elles commandaient sur des sites de, comment on appelle ça, sur des sites, des catalogues, finalement. Mmh. C'est des catalogues online, donc il n'y a pas grande différence. Mais oui, ça pourrait faire sens de se dire, tu touches un autre public. Je donne un exemple qu'il cite, il cite Net-a-Porter, qui est un site assez connu en fashion aux États-Unis, qui a lancé son magazine qui s'appelle Porter, un peu Vogue-like, et qui coûte, hein, qui n'est pas gratuit, donc que les gens payent, comme si ça lui donnait une sorte de crédibilité dans le monde de la mode. Voilà.
Ah, je me demande si c'est pas un peu de frime aussi, tu sais, genre on est des vrais, tu vois, on n'est pas seulement sur Internet, on est des vrais, voyez, on fait même notre propre magazine, on est crédible.
Oui, ça peut tout à fait être ça. En tout cas, bah voilà, le papier n'est pas mort. Une chose, j'étais à Paris la semaine dernière pendant le week-end et j'aime bien aller dans les villes parce que j'observe les gens. Londres, c'était assez des malades parce qu'ils étaient tous sur leur mobile. À Paris, c'est la même chose, sauf qu'ils ne peuvent pas être sur leur mobile quand ils sont dans le métro, parce que souvent, tu n'as pas une bonne connexion. Donc, c'est là que tu vois le retour des livres papier. Beaucoup de gens lisent des livres papier et aussi beaucoup de gens lisent, et ça m'a halluciné, aussi beaucoup de femmes, j'ai vu beaucoup, aussi des personnes plutôt âgées qui lisent des Kindle ou des Kobo, qui sont des e-books énormément. Mmh. Donc ça, c'était le petit tip que j'ai vu, on a pu voir à Paris, on va dire ça comme ça.
Excellent.
Très bien, allez, on va passer à la partie insight, c'est le moment où on baisse le ton de notre voix, on se cale et on va se dire, notre but c'est de nous inspirer, voilà, on va dire ça. Donc la partie Nipsey's Insight, c'est que voilà, c'est des blogs, des articles, des bouquins, des quotes qui nous ont inspirés et duquel on va vous parler. Alors, on va commencer par moi, qui ai lu quelque chose d'intéressant. Alors, c'est sur le thème de la vente, très intéressant. C'est par un VC, donc un venture capitaliste qui donne de l'argent à des startups dans la Silicon Valley, qui est très connu, qui s'appelle Mark Suster. Vraiment, il a un blog assez incroyable qui s'appelle Both Sides of the Table, les deux côtés de la table, et il écrit sur les différentes problématiques. Et il parlait du monde de la vente, parce que lui, il le connaît aussi bien, parce qu'il a beaucoup travaillé dans ce domaine également. Et j'adorais parce qu'il dit comment aider les startups à comprendre le vendeur et sa culture. Et je vais vous lire deux, trois choses qu'il disait qui sont vraiment intéressantes sur l'attitude ou la notion du vendeur. Est-ce que tu es prêt, Marco?
Ah, je suis hyper curieux, j'avoue. Je t'écoute.
Hein. Alors, il décrit le vendeur. Alors, ça, c'est quelques petites phrases. Hein. Après, on peut aller dans les détails, mais quelques petites phrases où il décrit un peu la sensibilité du vendeur. Et il dit, ben, les gars, dans les startups, vous devez comprendre que la personne dans les ventes, elle va souvent blâmer le produit. Elle va souvent critiquer le produit en disant, le produit, il n'est pas comme ça parce que j'ai perdu une vente, parce que le produit, il est mal fait, il n'est pas assez bon, il a ci, il a ça. Ça, c'est une des caractéristiques du vendeur. Deuxième, le vendeur, il va aussi toujours blâmer le prix. Il va toujours dire, le prix, on était trop cher par rapport à la concurrence, l'autre est moins cher que nous, il donne plus de marge, voilà.
Bon, ça, c'est pas que dans les startups. Hein.
Non, c'est pas quand on est... Non, je dis les vendeurs en général, hein. Mais lui, il est dans le monde des startups, donc voilà. Donc, il dit, la notion de prix est très importante dans le monde du vendeur, alors que chez peut-être un développeur, ça sera plutôt le code et ça sera plutôt d'autres choses. Une chose qu'il dit aussi, c'est que le vendeur, il a aussi tendance à vendre le futur à son prospect. C'est qu'il va peut-être pas lui vendre que le produit. Maintenant, il va lui vendre aussi le développement futur du produit. Alors, même si le produit n'est pas ce qu'il est actuellement, lui, il va utiliser les potentialités le produit va peut-être avoir pour le vendre à son prospect. Ça, il faut en être conscient aussi. Il dit aussi que les vendeurs ont tendance à exagérer la grandeur et la puissance de la compétition, donc des gens qui sont ses concurrents, en disant « Ouais, ils ont fait un truc énorme, c'est vraiment, ils nous ont pris énormément de parts de marché, où ils ont fait ça, ça a super bien marché, et ça, je l'ai vu moi-même, j'ai cru entendre certains de mes vendeurs me parler quand j'ai entendu ça. Ils disent aussi, le vendeur demande toujours pour plus de support, le vendeur va aussi vous dire que son quota, donc son objectif est toujours trop haut, et voilà, ça c'est les dernières choses. Donc,
ce monsieur n'est pas vendeur.
Non.
On est bien d'accord. Hein.
Bon, il a beaucoup travaillé avec des vendeurs, mais est-ce que toi, tu t'es reconnu dans ces deux, trois descriptions ?
Alors, je t'avoue que dans le fait de ne pas avoir assez de support, oui.
Oui.
Parce que sinon, je reconnais être un vendeur vraiment assez autonome, créatif. Et je reconnais que les seuls moments où je me suis vraiment bien retrouvé dans ce que tu dis, moi, le prix, je le prends comme un challenge.
Oui.
Le produit, j'ai peut-être un petit côté méditerranéen, donc ça m'arrive de l'exagérer. La concurrence, franchement, j'aime qu'elle soit là parce que ça rend mon boulot plus intéressant. Donc, je dis pas que je suis un type complètement atypique, je dis que je suis un type qui aime bien les challenges et que beaucoup de choses que tu as citées, en fait, ne font que renforcer le challenge, donc mon plaisir à jouer à cet énorme jeu qu'est la vente.
Oui. Et il dit une chose, que là j'aimerais bien ton avis, c'est qu'il dit que les vendeurs sont plus mercenaires que missionnaires, en fait. C'est-à-dire ils vont là où il y a le cash et où pour aller vite. Alors c'est un Américain, hein, peut-être ils ont une autre vision que nous en Europe. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Écoute, je vais finir avec un autre truc qui finit en R, mais je dirais alors plutôt visionnaire. c'est clair que je me vois en fait séparé du groupe, hein, comme peut l'être le missionnaire qui est plutôt devant, ou le mercenaire qui à un moment s'en va et puis va défendre la cause qui semble être la plus juste. Moi, je dis que aussi loin, et je me rappelle l'avoir dit également à un ancien directeur des ventes, qui avait l'air de challenger, tu sais, mes valeurs en confrontation avec celles de l'entreprise, et qui me disait qu'aussi longtemps que les valeurs seraient communes et partagées, tout allait vraiment bien se passer, quoi. Et je l'ai corrigé en lui disant qu'aussi longtemps que l'entreprise partagerait mes valeurs, tout allait bien se passer. Et peut-être qu'en cela, je suis plus mercenaire que missionnaire, mais je tiens à dire que ma valeur à moi n'est pas l'argent. Voilà, je veux en fait trouver des solutions pour les clients. Je pense qu'il y a des entreprises qui peuvent vraiment contribuer à apporter ces solutions. Je suis à ce moment-là vraiment un pur représentant de cette entreprise à laquelle je crois, de même qu'à ses produits. Et puis qu'à partir de là, sitôt que je crois plus en ça, je suis loin, quoi. Donc peut-être plus mercenaire que missionnaire, mais je nous vois comme des visionnaires, c'est-à-dire penser beaucoup au futur de l'entreprise. Voilà, et là-dessus, je suis complètement d'accord.
Ok, parfait, très bien. À ton tour, Marco, de nous parler quelques insights que tu as trouvé intéressants cette semaine.
Alors moi, j'avoue, je vais vous parler d'un article également qui m'a beaucoup intéressé et qui pose la question sur la différence qu'il y a entre les personnes qui ont du succès et les personnes qui ont beaucoup de succès. Et j'ai été un petit peu scotché parce que je crois qu'on a tous envie d'avoir beaucoup de succès.
Oui.
Et que je reconnais que je me suis à peine reconnu dans ceux qui ont du succès. Et en fait, ça fait un petit peu la peau à quelques idées reçues, en tout cas que moi j'avais. Je vais peut-être en citer une ou deux comme ça, hein. De toute façon, on va mettre le lien pour que vous puissiez lire cet article qui est fait en anglais, mais qui n'est pas si long que ça. Et que c'est vrai que c'est quand on pose la question aux gens sur le comment ça va, qu'ils nous répondent souvent que ça va bien. Et quand on creuse un peu, qu'on se rend compte que ça ne va pas si bien que ça, quoi, même chez les personnes qui apparemment ont du succès. Alors, il y a un des mythes qui s'effondre et qui est que une personne qui a du succès arrive toujours à répondre oui, quoi, genre j'arrive à faire rentrer ça, ça va passer, je vais réussir à le faire passer. Et il semblerait que les personnes qui ont beaucoup de succès disent énormément non. Donc, contrairement à dire oui à beaucoup de choses et donc oui à beaucoup d'opportunités, les personnes qui ont beaucoup de succès, elles, se concentrent sur l'essentiel. Et donc, l'essentiel, il y a même des opportunités intéressantes ou même très intéressantes qu'elles vont refuser simplement parce que c'est pas l'essentiel. Et comme je le comprends, on va dire, elles se posent beaucoup de questions sur quel est l'essentiel pour elles. Et je pense que là-dedans, il y a un tas de questions. C'est quelles sont mes forces? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Qui est-ce que j'ai envie de rendre heureux autour de moi? Est-ce que je les rends déjà heureux? Je pense qu'il y a un tas de choses qui sortent simplement même des notions de succès professionnel ou commerciaux, et qui nous permettent, une fois qu'on s'est posé ces questions, de revenir à des succès même commerciaux et de devenir vraiment très successful, hein, comme ce nom en anglais le mentionnait dans l'article, afin de se concentrer sur l'essentiel, les choses vraiment importantes, et de laisser même des choses très intéressantes passer pour que d'autres y répondent. Tu penses quoi de ça, Michael ?
Je trouve très intéressant et je trouve aussi très intéressant de savoir dire non. Et je pense que dans un monde où on a de plus en plus de sollicitations, de plus en plus de possibles opportunités, c'est vrai que je pense qu'on peut savoir dire non quand on sait où on va et quand on a une vision d'où on veut aller. Et je pense qu'aussi, ça, c'est une chose que les gens qui sont très successful ont. C'est qu'ils savent, comme un capitaine, où ils vont. Et voilà, donc ils savent dire non aux autres opportunités parce que leur vision, elle est claire et ils vont dans cette direction-là.
Alors, c'est
Et je trouve intéressant, je trouve que c'est un très bel insight de pas se dire ah ben voilà je vais où le vent me porte, mais comme un capitaine je vais dans la direction que j'ai décidé serait la vision pour moi ou ma boîte.
Aïe, tu viens avec cet insight, de me donner en fait une petite idée, parce que je voulais citer encore un exemple de ce qui est abordé dans l'article. Je vais être plus rapide et je vais en fait en citer deux, quoi, parce que là tu viens de m'emboucher un coin. Alors en fait, il semblerait que les personnes à succès regardent toujours ce que la compétition est en train de faire, hein, et il semblerait que les personnes qui ont beaucoup de succès en fait se focus sur ce que eux peuvent faire de mieux. Et ça m'embouche un coin, hein. C'est toujours cette recherche intérieure un petit peu qui continue chez les personnes qui ont beaucoup de succès. Moi, ça m'arrivait de dire qu'en fait, je ne regardais pas la compétition. Je ne dis pas que j'ai beaucoup de succès. Je dis que dans ce cas-là, je me suis retrouvé au niveau de cette remarque parce que je trouvais que la compétition me polluait, voilà, polluait les idées vraiment intérieures qu'on pouvait avoir sur comment on devait avancer. Puis je terminerai avec quelque chose qu'on a beaucoup dit dans Nip Sales. Donc, il semblerait que les personnes à succès arrivent très rapidement avec une réponse. Il y a quel que soit le cas de figure, hein, auquel on peut penser, il semblerait que les personnes qui ont beaucoup de succès sont de puissants auditeurs. Voilà, ils écoutent énormément et parlent peu.
Ouf. J'ai de beaucoup à apprendre.
Donc, je vous recommande cet article.
On le postera
Ah
de
bah
toute
attends,
façon et vous
tu
pourrez
n'as
aller
pas le temps.
cliquer dessus. Donc voilà. On va passer à la quote, Marco, si tu es d'accord. C'est ta quote, donc c'est
Exactement.
toi qui l'a trouvée, donc c'est toi qui vas la lire. Donc je t'invite à nous lire cette quote que nous allons après débattre ensemble.
Alors, c'est une quote de Victor Hugo qui dit: Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue.
Eh bien, tu sais quoi? Moi, quand j'ai entendu ou lu cette quote-là, ça m'a beaucoup parlé. Aussi, ça m'a beaucoup parlé parce que, aussi, je pense que Victor Hugo, il parlait aussi des révolutions qui avaient lieu et des choses comme ça, qui tout d'un
Bien
coup,
sûr.
l'idée germait et tout d'un coup, la révolution se passait. Et voilà. Et je pense qu'on peut aussi le lier beaucoup à ce qui se passe dans le monde de la technologie, ce qui se passe dans le monde des startups parce que. Quand on regarde des mastodontes comme YouTube actuellement, on peut se dire waouh, YouTube c'est énorme, comment ils ont fait pour être comme ça? Mais quand YouTube a commencé, il y avait aussi d'autres services qui étaient comme eux, qui ont même été avant eux dans les années 90 pour essayer de faire de la vidéo, mais non, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Pas assez de bande passante, les gens n'étaient pas prêts à le faire, les browsers ne l'acceptaient pas, il fallait du flash, enfin, plein de choses comme ça. Même chose quand je pense des fois aussi dans le monde des social media, on voit ah, Facebook, ça a cartonné, mais avant Facebook, rappelez-vous tous les réseaux sociaux qu'il y a eu, Friendster, qui n'ont pas incroyablement cartonné, finalement, parce que ce n'était pas l'heure qui cartonne. Et ça, je suis vraiment d'accord que des fois, on est précurseur, des fois, voilà, on est précurseur de ces idées, comme Thomas Edison, qui, avant le début du siècle, avant 1900, avait déjà l'idée de faire une batterie électrique, une voiture électrique, alors que finalement, il l'avait faite, mais elle fonctionnait pas tant bien que ça, alors que maintenant, après 100 ans plus tard, c'est ça qu'on va faire.
Et qu'elle fonctionne toujours pas bien.
Non, non, Tesla fonctionne quand même bien, disons-le. Mais voilà, et je trouve ça vraiment une quote très intéressante qu'on peut appliquer à beaucoup de choses.
Ouais, bah moi, elle m'a également inspiré. Je reconnais que ça m'a rappelé pas mal de moments où j'avais le sentiment d'avoir une idée absolument géniale. Elle était tellement géniale que j'ai envie de la partager avec moult personnes. Et bah c'est clair, on n'est pas toujours suivi hein, dans une idée. Et simplement, bah, il y a des moments où les gens sont ailleurs, quoi. Ils sont ailleurs avec leurs soucis, avec leur manière de penser. Et je crois que plutôt que de se précipiter et de forcer les choses, hein, l'idée, elle est probablement géniale. Mais pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ce temps pour mieux préparer le terrain? Voilà. Pourquoi est-ce que le premier réflexe, c'est effectivement de forcer pour qu'il y ait une meilleure compréhension, alors que plutôt que de forcer, on ferait mieux de préparer le terrain afin que le moment venu, la compréhension, elle arrive et qu'elle arrive pour vous, quoi. Pour vous qui avez préparé ce terrain plutôt que tous ceux qui débarquent à ce moment-là.
Très bien. Très bien. Alors, comme on dit, patience. Encore. On peut travailler, je crois. Bon, exact. Voilà. On arrive à la fin de Nip Sales, l'épisode 008. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez apprécié et surtout que vous en avez retiré de la valeur, même s'il est gratuit. En tout cas, pour nous, c'est toujours un plaisir de le présenter. Maintenant, si vous savez que vous avez des actions à faire, des choses à faire en ce lundi ou mardi matin quand vous nous écouterez, maintenant, la chose qu'il faudrait aussi faire, c'est nous parler, nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, est-ce qu'il y a une chose qui vous a parlé ou pas. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous parler, à commenter sur le site. Donc, comment faire pour nous parler? C'est tout simple. Vous allez sur Nipsales, nipsales.com et vous allez dans le dernier épisode, vous cliquez 008 et vous pouvez commenter, donner votre point de vue, donner si vous êtes d'accord ou pas. Si vous voulez nous contacter sur les réseaux sociaux, tout simple, vous allez Nipsales sur Twitter, @Nipsales, et vous nous tweetez. Moi, vous voulez me contacter en direct, c'est @Side, S-Y-D-E. Et toi, Marco?
C'est Marco_NIP, comme voilà. NIP.
Et si vous êtes vraiment des Uber fans, pas des fans, mais des Uber fans, et vous voulez vraiment diffuser la bonne parole Nip Sales autour de vous, vous allez sur iTunes et vous marquez un petit commentaire en disant, bah voilà, ça c'est des choses que j'aime, et je vous mets 5 étoiles parce que je vous adore. Voilà. Alors, en tout cas, on remercie vraiment à tous les auditeurs qui nous écoutent chaque 2 semaines, et pour votre feedback et pour vos suivis, et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao, ciao.
À dans 2 semaines, dimanche 27 avril.
Nip Sales.